Parlons sport sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver parce que c'est vrai que j'ai pris quelques vacances, donc je n'étais pas là les fois précédentes. Donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct sur le 102.2. Aujourd'hui, mes amis animateurs sont vexés, ils m'ont tous planté aujourd'hui. Je suis tout seul. Bon, en tout cas, je suis en bonne compagnie quand même, très très bonne compagnie. Mais bon, tout d'abord, je salue Valérie et Jean-Yves qui, Valérie, pour raison de vacances et de garde de sa petite fille, est en Ardèche. Donc je la salue, comme en plus il fait très très beau, qu'elle en profite, elle a bien raison. Et Jean-Yves, pour raison professionnelle, pas avec nous aujourd'hui, mais en tout cas je vous salue tous les deux, parce que je sais que vous nous écoutez. Alors notre technicien de ce soir, c'est Théo, que je salue, le meilleur de tous.
Salut Yolette.
Tu vas bien?
Ça va. Non, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça, voilà.
Non mais t'es tout seul, je suis tout seul, il faut bien que je trouve des amis maintenant.
Il y a moi.
Voilà, t'es mon ami. et par contre, j'ai d'autres amis, parce qu'aujourd'hui, on va parler de randonnée pédestre. Et vu le temps, bah, franchement, ça donne envie d'aller marcher un petit peu, plutôt que de s'enfermer dans un bureau de 10 mètres carrés. Et pour en parler, bah, on a la chance, pour la première fois depuis qu'on invite la Fédération française de randonnée pédestre de Vaucluse, d'avoir son président, Bernard Fatato. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Lionel. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Il y a Valérie qui dit bonsoir à tous parce que tu sais, je les suis. Donc bonsoir de Valérie.
Merci, bonsoir Valérie.
Voilà, donc vraiment ravi de t'avoir avec nous. C'est vrai qu'on a toujours donc, notre deuxième invité, Jean-Pierre Tallieu, qui est chargé de communication. Après, c'est son travail, c'est vrai. Mais on t'a à chaque fois, et c'est toujours un très très grand bonheur de t'avoir avec nous. Tu es chargé de communication donc auprès du comité. Et ça permet comme ça d'apprendre beaucoup de choses sur la randonnée pédestre. Et on va en apprendre encore plus parce que c'est vrai que bah, grâce à son président, grâce à toi.
Il y a le président qui est là.
Voilà, et puis c'est vrai que la randonnée se démocratise de plus en plus. Ça sera l'occasion de développer un petit peu cette activité, surtout au niveau associatif, parce qu'elle se fait beaucoup de manière individuelle et peu au niveau club, ce qui est un grand dommage. Mais on va en parler. Alors, avant de... Bah, comme mes amis ne sont pas là, bah, c'est moi qui vais tout faire. Alors Valérie, j'espère que je vais être à la hauteur de tes compétences. Hein. Donc, je vais parler de l'actualité sportive du Comtat Venaissin, sachant qu'en ce qui concerne le handball, donc le Ventoux Comtat Handball, il n'y a pas eu de match ce week-end. Néanmoins, le 2 mars prochain, il se déplace à Bouc-Bélair, hein, ça sera à 20h30. Donc, ce que disent justement les entraîneurs, c'est qu'après 5 succès consécutifs, les joueuses vont tenter de poursuivre la série en cours. Et ça, c'est vraiment une bonne chose hein, parce qu'elles avaient mal commencé la saison. Là, elles continuent. Le match aller s'était soldé, parce que là, c'est le match retour, par un match nul 32 partout. Donc, la dynamique actuelle est très, très favorable aux Vauclusiennes. Mais par contre, je pense que les Bucco-Rodaniennes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, je pense qu'elles auront envie justement de ne pas faire un match nul et surtout de gagner chez elles. Ensuite, concernant la pré-nationale, donc Mazan va recevoir la Côte Bleue à Sorgues. Ça sera à 21h le même jour. Ensuite, en championnat de territoire, l'Entente Carpentras-Mazan se déplace à Château-Renard. Il n'y a pas d'horaire par contre pour eux. Il faudra juste se renseigner en allant sur le site ou sur la page Facebook. Les moins de 15 ans qui jouent en Élite PACA vont se déplacer à Draguignan et c'est samedi à 17h. Donc c'est quand même un déplacement important, c'est chez les leaders. Et je pense que ces leaders attendent les joueuses de Cynthia Faro, qui est l'entraîneuse. Et surtout, l'occasion idéale pour concrétiser les progrès affichés depuis pas mal de temps. Alors chez les plus petits, vous avez les moins de 13 ans, avec Mazan qui va se déplacer à Valréas. Le match aura lieu samedi à 17h. Les moins de 11, équipe première, se reçoit Avignon. Et Lille-sur-Sorgue, ils vont jouer donc deux matchs samedi au COSEC à partir de 14h. Et l'équipe 2 des moins de 11 se déplace à Monteux et sera opposée donc à l'équipe de Monteux et au Thor. Et ça, le match se jouera à 13h. Ensuite, on va en continuer. Il y a Jean-Yves qui vous dit bonjour.
Voilà. Bonjour Jean-Yves.
Voilà, donc j'essaie d'être sur le téléphone, sur les résultats. Voilà, donc ça c'est les résultats pour le pour Mazan. Ensuite, on a l'ABC Carpentras. Alors là non plus, il n'y avait pas de match. Alors, vacances oblige aussi. Hein. Donc, concernant le programme de l'ABC Carpentras, il est assez chargé. Alors, on va commencer par le samedi 2 mars prochain. Alors, à domicile, il y a trois catégories qui vont recevoir. Tout d'abord, les U11 garçons qui vont recevoir les Angles Sauveterre. Ça, c'est à 13h30. Juste après, à 15h15, les U18 garçons qui reçoivent Morières Basket Club. Parce que l'ABC Carpentras, en fait, c'est le basket, messieurs. Comme vous n'êtes pas forcément de Carpentras, je vous le précise.
Non, on découvre.
Voilà. Et ensuite, à 17h, ce sont les filles, les U11, qui clôturent cet après-midi en recevant Orange Basket Club. Par contre, il y a trois équipes qui se déplacent, elles, par contre. Les U13 garçons, ils joueront à 15h aux Angles. Ensuite, à 17h30, ce sont les U15 garçons qui recevront l'Union Sportive Avignon-le-Pontet. Et enfin, à 18h, ce sont encore les filles qui clôturent, les U18, qui vont jouer à Nyons Basket. Donc, un programme chargé du samedi, mais il y a également un programme chargé le dimanche, avec à domicile les U17 garçons qui jouent en régional. Ils recevront Sapella Basket 13. Et puis, les seniors garçons à 14h recevront Bati Basket Club. Et il y a une seule équipe qui se déplace, c'est les seniors filles contre Sainte-Marguerite. Voilà. Et puis après, il y a un match en extérieur le 6 mars prochain, donc c'est un mercredi. C'est les U13 filles qui vont se déplacer à Cavaillon. Donc de très très belles rencontres et on aura de quoi justement avoir comme renseignements et surtout au niveau des scores. Alors on va continuer. Il y avait du rugby. Il y avait du rugby à 15, donc on en parlera. Parce que comme mes amis ne sont pas là, je pourrais dire ce que je veux. Donc, je pourrais parler du rugby à 15. Je pourrais parler de Clermont-Ferrand. Hein, ça va plaire à Jean-Yves, qui est mon club préféré. Mais avant cela, et bien sûr, du tournoi à destination, parce que pour une fois, l'équipe de France a gagné. C'est l'occasion d'en parler. Mais là, c'était le RCC 13. Donc, on aura tout à l'heure Jérôme Alonso, qui est le co-entraîneur du club de Carpentras, en duplex téléphonique pour parler de cette superbe victoire de Carpentras contre Salon. Écoutez bien, 58-4. Donc, je ne vais pas, on va dire, trop parler de ça parce que Jérôme se fera un plaisir, bien entendu, de commenter ce match. Mais bon, voilà, les résultats, le bilan est vraiment très, très positif. Et un très, très grand bravo donc, à Carpentras qui, pour l'instant, se retrouve troisième au classement provisoire avec 32 points. Les premiers, c'est toujours Bao avec 43 points et juste derrière Ville-Gayen, bien sûr, avec 39 points. Et quand on parle de Entraigues, hein, qui est le club voisin, ils sont 8e avec seulement 21 points. Ouais, Jean-Yves, ça y est, il est vexé parce qu'on parle du rugby à 15 tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Alors, on va continuer justement. Alors, là, j'ai fini avec les résultats locaux. Et c'est vrai qu'on parle jamais de résultats nationaux. Et là, je vais faire un énorme effort parce que j'ai parlé de football. Parce que c'est vrai qu'on a rarement, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de la Ligue 1. Bah écoutez, ça va être l'occasion de parler de la Ligue 1. Donc les matchs à retenir, bah, c'était le PSG hein, qui a gagné contre Nîmes. Ils recevaient Nîmes, ils ont gagné samedi 3-0. Après, ça devient régulier que le PSG gagne. Après, bah, il y avait l'OM qui se déplaçait à Rennes. Bon, ils n'ont pas perdu cette fois-ci, mais ils n'ont fait qu'un match nul. Donc, c'est vrai que l'OM, pour l'instant,
difficile.
Ouais, franchement, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je n'ai pas le classement pour l'instant sous les yeux, mais ils ne sont pas du tout en haut du classement. Le PSG, par contre, se débrouille relativement bien. On verra ce que ça donne, surtout en Europa League, parce qu'au niveau du championnat français, ça peut être plié comme l'an dernier. Après, concernant les autres résultats, bah tiens, il y a Jean-Yves qui est à Nice aujourd'hui. J'ai donné le résultat de Nice. Ils ont perdu à Amiens 1-0. Voilà, donc il est dans une ville qui a perdu, donc dommage pour toi Jean-Yves. Et puis Montpellier, qui est quand même un voisin, lui aussi a recevé Reims, et ils se sont inclinés 2-4. Voilà globalement. Et puis Monaco, tiens, 2-0 contre l'Olympique Lyonnais. Ils ont gagné. Alors, par contre, le week-end prochain, sachez que le PSG se déplace à Caen, ça sera le samedi. Le match a lieu à 17h. Ensuite, bah, on peut parler de l'OM, hein, parce que l'OM, bah, on espère qu'ils vont pouvoir gagner à domicile. Ils rencontrent les Stéphanois, les Verts. Et ça, par contre, ça sera dimanche 3 mars à 21h. Je regardais si Nice, bah tiens, Nice, pour toi, Jean-Yves, si tu vas aller voir, ils reçoivent Strasbourg à 15h le 3 mars. Ça, c'est fait. Parce que c'est vrai que le football, on n'en parle pas trop. Alors, il y avait effectivement du rugby à 15 ce week-end, mais il y avait d'un côté le top 14 et il y avait également le tournoi à destination. Donc, je ne sais pas si vous êtes passionné, messieurs, de rugby.
Passionné, non, mais moi, je suis quand même régulièrement les matchs.
Ouais, et toi, Bernard ?
De temps en temps, je vais voir un peu des matchs parce qu'il y a quand même une très bonne ambiance.
Voilà, donc on va parler de top 14. J'ai pas récupéré le résultat de Clermont-Ferrand aujourd'hui, c'est bizarre ce week-end. Non, parce qu'en fait, ils ont pris une tôle. Voilà, c'est Jean-Yves qui me dit qu'ils ont pris la tôle. Et effectivement, Clermont-Ferrand a perdu. J'ai du mal à trouver le résultat. Ils jouaient hier contre Lyon. Mais alors, après, ils se déplaçaient à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on change d'altitude et Clermont a toujours un petit peu de mal à l'extérieur. Donc, bah, ils ont perdu 19-13 contre, donc c'était contre Lyon. Après, à retenir, bah, Toulouse. Hein, Toulouse qui est cette année relativement bien placée. 27-14 contre Montpellier. C'est quand même une petite surprise hein, parce que Montpellier est relativement bien placé parce que bon, se débrouille bien. Bon, ils sont 9e pour l'instant au niveau du top 14, Montpellier, mais c'est une équipe qui est relativement...
Ça joue pas mal.
Ouais. Donc, parce que Toulouse est premier. Je vous donnerai le classement juste après. Mais voilà, c'était un beau match. Après, donc Lyon, ils ont gagné contre Clermont, mais il faut savoir que Lyon est 3e. Lyon, Clermont, donc c'est un petit peu proche. Et par contre, un bon résultat, c'est pour Toulon, hein, qui gagne 38-11 contre Pau à domicile. Donc ça, c'est également...
Mais ça leur fait du bien, surprise. Parce que ça fait 2-3 matchs qu'ils perdaient.
Mais Toulon, cette année, ils sont vraiment pas dans le coup. Ils sont 10e au
classement.
Mais c'est
pas Toulon d'il y a quelques années, c'est sûr. Hein.
Ouais, non mais c'est clair.
Là, j'ai eu plaisir quand même à les voir gagner cette fois.
T'as regardé le match ?
Non, mais je me suis intéressé au résultat.
Alors par contre, c'est vrai qu'il y a une équipe qui, pour l'instant, est en bas du classement et c'est inquiétant, c'est Perpignan. Ils ont encore perdu ce week-end. Perpignan, ils ont perdu contre Agen même à domicile, 13-20. Alors le week-end prochain... Juste pour vous donner quelques rendez-vous. Donc Toulon ira à Perpignan. Ensuite, Lyon recevra Castres. Clermont recevra Grenoble. Et ensuite, le Stade français également recevra donc Toulouse. Donc, ça sera une belle affiche. Alors, comme je parlais tout à l'heure du résultat du top 14, le premier, c'est Toulouse. Avec 62 points, mais sachez que juste derrière, il y a Clermont, l'ASM, qui est très très bon. Donc à chaque fois, c'est vrai que je me fais un petit peu chambrer parce que, bon, Jean-Yves, il n'a pas forcément toujours tort. Et c'est Clermont part toujours très fort et à la fin, ils perdent dans les phases finales. Donc c'est un petit peu dommage. Clermont est deuxième avec 56 points. Ensuite, juste derrière, nous avions Lyon avec 3 points. La Rochelle est quatrième avec 51 points et les trois équipes qui ferment la marche. 12e, Agen avec 25 points. Grenoble, 20 points. Et celui qui ferme la marche, j'en ai parlé, c'est Perpignan avec seulement 8 points. Donc j'ai un peu peur pour Perpignan parce qu'ils n'arriveront pas à remonter les 12 points qui les séparent de l'avant-dernier. Donc à mon avis, ça sera la relégation. Et il y avait le top 14 ce week-end. Top 14, j'avais parlé. Le tournoi de destination. Vous avez regardé un petit peu le match ?
Non.
Non. Ah, et la France a gagné. Alors, ce qui est
ça, j'ai su.
Voilà. Et depuis un petit bout de temps, donc ils ont gagné contre l'Écosse, si je ne dis pas de bêtises.
L'Écosse, oui.
Ouais, c'est ça. Mmh. J'avais un doute. 27-10. Et il faut savoir une chose. Alors, je ne sais pas si Jean-Yves le sait, mais en fait, c'est le premier bonus offensif qu'ils obtiennent depuis 2 ans.
Ouf.
Ils sont plus... parce qu'en fait, il y a eu... faut savoir que les bonus ont été créés en 2017. Hein, donc, le bonus offensif, j'y ai arrivé, a été créé en 2017. Et depuis, c'est la deuxième fois qu'ils gagnent le bonus offensif. Alors, pour vous donner d'autres exemples, sur la même période, l'Angleterre, l'Irlande ont inscrit 5 bonus offensifs. Le Pays de Galles et l'Écosse, 3. Donc, nous, on est un petit peu loin. Mais bon, globalement, un bonus offensif pour la France sur ce match, franchement, c'est très très bien. C'est une performance de Ntamack en défense avec un doublé assez rare de Dritte. Et c'est vraiment la chose à retenir. Il faut savoir également que le sélectionneur a retenu les mêmes joueurs pour le prochain match. Donc le prochain match, donc l'équipe des 31 va se présenter pour le prochain match. Ça sera contre
l'Irlande.
C'est ça, contre l'Irlande. Et je crois que ça sera le 10 mars prochain. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que la Coupe du Monde a lieu cette année au Japon. Elle aura lieu du 20 septembre au 2 novembre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, si la France ne redresse pas la barre... Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Para, le Clermontois, est resté chez lui. Peut-être pour ça que Clermont a fermé. Perdu. Jean-Yves, c'est pour ça. Para est parti à Clermont, c'est pour ça qu'ils ont perdu Clermont. Non, parce que Para, c'était pas... Ça n'a pas été terrible la fois dernière avec l'équipe de France. Et là, ben, ils ont gagné et Para n'était pas là. Voilà, donc globalement. Alors sinon, concernant les autres résultats, le Pays de Galles a gagné contre l'Angleterre 21-13. Et enfin, l'Italie a perdu, c'est un peu la chose normale, hein, contre l'Irlande 16-26.
Je pense que le prochain match contre les Irlandais, ce sera quand même aussi, on verra un peu comment ça va se passer, voir un petit peu si vraiment il y a un redressement. Et s'il gagne, ça sera quand même un bon signe.
Alors, ça sera bon signe. Alors, c'est le dimanche prochain. Alors, au niveau des statistiques, la France est quand même devant largement au niveau des pronostics. Par contre, les autres matchs, donc il y a l'Angleterre qui jouera contre l'Italie. Là aussi, l'Angleterre est largement favorite. Et il y a l'Écosse-Pays de Galles. Et là, par contre, c'est relativement serré, mais avec une petite avance pour l'Écosse. Voilà, l'Écosse est favorite pour l'instant. Ça, c'est au niveau des différents pronostics. Donc, on verra si ça évolue d'ici... parce que le prochain match, donc, ça sera le 9... donc, 9 mars, il y aura l'Écosse, l'Angleterre qui joueront. Et la France jouera, elle, le 10 mars prochain à 16h. Alors, concernant le classement, on n'est pas dernier. C'est déjà une bonne chose.
On n'a pas la cuillère de bois.
Pour l'instant. Ceux qui vont l'avoir, pour l'instant, c'est l'Italie. Par contre, les premiers, donc, c'est le Pays de Galles. Deuxième, c'est l'Angleterre. Troisième, Irlande. Et nous, on est quatrième. Cinquième, l'Écosse. Et sixième, enfin, c'est l'Italie. Malheureusement, ça ne change pas trop. Voilà, bon, mais j'ai fini de vous ennuyer avec tous ces résultats. On va faire une petite pause. Après, on devrait peut-être avoir Jérôme au téléphone. Je ne sais pas s'il a appelé. Pas encore, donc je pense qu'on va attendre son appel. Mais sinon, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite.
I'm feeling something, something different. When you left, I'm here to change. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's a love man, call my baby crying, so the silver lining. It must be a love man, needed you to show me, without you I'm lonely. My mind would ruin my heart, I didn't pay attention to the light.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Merci Théo de me faire signe, parce que c'est vrai que je n'avais pas entendu. Donc soyez les bienvenus, on est toujours bien sûr en direct sur le 102.2 et nous sommes en duplex téléphonique avec Jérôme Alonso, le co-entraîneur du RCC 13. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Comment ça va depuis hier ?
Bah écoutez, ça va bien. Hein.
Bah ouais, parce que surtout un très très bon résultat. 58 contre 4 pour Salon. Ouais, un, petit ça, bilan, ouais. Un petit bilan à froid maintenant ?
Non, mais le bilan il est positif puisque contrairement au match aller ou dernièrement contre Toulon à domicile où on avait affronté des équipes inférieures à nous, on avait pas mal déjoué sur l'ensemble de la partie. Là, c'est ce qu'on avait demandé aux joueurs, de rester concentrés, disciplinés dans le système de jeu du début à la fin. Chose qui a été faite, donc c'est beaucoup de fierté sur ce match. Et surtout, on a vu que les garçons étaient vraiment concentrés sur le fait de bien mener le système de jeu. Donc on est très contents de cette performance.
Surtout qu'en fait, la performance a été aussi bien sur l'attaque que sur la défense.
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est que à la mi-temps, on est rentré à 34-0. On avait demandé aux joueurs justement de rester concentrés sur ça et de marquer en seconde mi-temps le même nombre de points. En fait, c'était ce qu'on explique aux joueurs, c'est que si on respecte l'adversaire au rugby, mais ça veut dire qu'on continue à jouer notre meilleur rugby et peu importe le score. Après, on voulait finir vraiment ce match sans prendre d'essai. Malheureusement, sur une petite erreur en fin de match, on en prend un. C'est la seule ombre au tableau, mais bon, il ne faut pas être trop, trop gourmand. C'est quand même une bonne performance dans l'ensemble, surtout qu'on avait remodelé l'équipe et que ce n'était pas évident avec certains joueurs qui ne jouent pas souvent. Christophe Chave de la réserve qui était venu nous rendre service. Donc on est globalement satisfait.
Et quand tu parles justement du soutien, donc effectivement, tu dis qu'il y a Christophe Chave qui est venu vous aider. Bon, Gaël, il a rejoué également. C'est la première fois que tu jouais à la Roseraie, non ?
C'est ça, c'était ses débuts à la Roseraie, ouais.
Et alors ? Satisfait ? Il était content à la fin du match ?
Oui, il était satisfait. Bon, après, comme on dit, on préférerait ne pas le faire jouer.
Ouais.
Maintenant, on a des échéances importantes qui arrivent dans les trois prochaines semaines. Donc on avait quelques joueurs qui avaient un petit bobo, on avait préféré les laisser au repos. Mmh. Donc ce qui, avec la suspension de Maxime et de Caïs, on était obligé de composer un peu comme ça. Donc on l'a fait jouer et on est content puisqu'il ne s'est pas blessé et qu'on a gagné. Donc on est content.
Et puis tout à l'heure tu parlais effectivement de joueurs qui ne rentrent pas tout le temps. Moi j'en ai relevé 4. Il y a Zeri, Djellal, Amrani et puis non, les deux frères Amrani.
Non, c'est Amrani et
Amari. Ah oui, Amari, pardon.
Ouais.
Et parce que en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a eu besoin d'avoir ce soutien. Ce soutien a fonctionné, c'est-à-dire que les remplaçants sont largement à la hauteur. C'est déjà une bonne nouvelle.
Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi qu'on voulait voir pour comme on dit les échéances à venir qui vont être importantes. On voulait savoir si tout le groupe avait vraiment le niveau de jouer le haut de tableau en Elite 2. Hier, on s'est aperçu que malgré l'opposition qui était moins importante que les autres semaines, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre 25 et 40 minutes par match. Là, ils en ont fait pratiquement 60-70 chacun.
Ouais, c'est énorme.
On a vu qu'ils tenaient la route, donc c'est intéressant. Oui, ça va permettre un peu à chacun de se remobiliser, surtout pour savoir que maintenant la concurrence est là. Donc on a eu la rentrée aussi de Jordan Richard qui est revenu au club après un petit passage à 15. Mmh. On a Grégory Scarpetti qui était en début de saison, il nous avait fait faux bond, on n'était pas arrivé à l'avoir et finalement il revient aussi pour finir la saison. Donc ça fait que ça va mettre un peu de piment dans cette fin de saison. Les joueurs vont être obligés de tout donner pour être sur la feuille de match le dimanche.
Donc en fait, on va dire les petits bas de l'an dernier, à savoir les pertes de régime, tu sais, quand ils menaient largement au score et qu'ils se laissaient un petit peu aller et souvent ça remontait et c'était compliqué. Maintenant, il n'y a plus. Exactement. C'est-à-dire que là, ils vont jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est même pas une question, je pense, qui relâchait. C'est une question que, quand ça devient facile, si on respecte pas l'adversaire et si on se respecte pas nous-mêmes, d'ailleurs, on veut chacun faire notre petit numéro, chacun veut prendre le ballon pour aller marquer. Et c'est à ce moment-là qu'on déjoue complètement et qu'on sort du système et qu'on tombe des ballons, on prend des essais et nous, on n'en marque plus. Donc, nous, on avait justement, à la mi-temps, demandé aux joueurs de continuer à respecter le système, d'être dans l'avancée continuelle et surtout jouer en équipe. Donc c'est ce qu'ils ont très bien fait et j'espère que maintenant on va le faire tous les dimanches.
Alors une petite question parce que justement j'essaie de retrouver les résultats, je l'ai trouvé sur la fédération, mais tu peux me confirmer, moi je trouve Carpentras qui est troisième, mais par contre je les trouve avec deux matchs de retard, c'est ça?
Ouais, en fait. Oui, sur le site de la Fédé, on a deux matchs de retard, en effet, sauf qu'ils ne nous ont pas encore officialisé le match qu'ils nous ont donné perdu contre Villeneuve-Minervois.
Voilà, donc, mais quand même, vous êtes troisième avec un match de retard, quand même.
Voilà, on est troisième avec un match de retard qu'on va jouer dimanche contre Villefranche à la Roseraie.
Donc, au niveau du classement, franchement, vous êtes très très bien placé, parce que bon, les premiers, c'est Bao. Bon, ils sont largement supérieurs avec 43 points, donc bon, voilà, ils sont assez loin. Mais par contre, Ville-Gaillenc, il n'y a que 7 points d'écart entre Carpentras et Ville-Gaillenc avec un match de retard. Hein, parce que Ville-Gaillenc a 39 points, vous 32.
Non, si on gagne justement notre match de retard, on reviendra à 4 points de Ville-Gaillenc. En sachant qu'après, il faut qu'ils viennent à la Roseraie. Donc, on peut leur prendre 3 points. Mmh. Et bon, on ne sait jamais. Bon, c'est sûr que en ayant ces deux matchs perdus sur tapis vert, ça nous handicape un peu. Mmh. Mais bon, on fera tout pour aller chercher. Déjà tout assuré pour préserver cette troisième place, et si on peut, on ne se prévoira pas d'aller chercher la seconde, en effet.
Donc le prochain match, c'est contre Villefranche. Alors c'est un match qui peut paraître sur la feuille de match assez facile, ils sont sixième, mais tu vas aborder ce match de quelle manière? Quel message tu vas passer aux joueurs?
Bon, on va l'aborder très concentré, parce qu'on sait que ça va être un match quand même très difficile, parce que Villefranche, malgré le classement, oui, ils sont sixième, mais ils ont, je crois, deux ou trois matchs de retard. Ils ont eu un début de saison compliqué. Ils reviennent bien. Ils ont recruté là, deux étrangers récemment. Mmh. Bon, il y a eu un petit accro hier à Bao où ils ont pris 60 points, mais je pense plutôt qu'ils ont fait l'impasse à Bao pour pouvoir être pris dimanche contre nous. Donc, nous, on s'attend à un match très dur. Les joueurs s'attendent à un match très dur parce que on n'a jamais trop réussi contre cette équipe de Villefranche. Mmh. Donc, le mot d'ordre sera voilà, la rigueur et la discipline surtout. Bon, on va rentrer quelques joueurs dimanche. On doit rentrer Gilles Gans, Dany et le petit Bravo. Donc, ça nous fera quand même un apport supplémentaire. Mais il faut le préparer. Il faut le préparer très, très sérieusement et surtout. Surtout pas faire de fautes et pas être indiscipliné, parce que contre des équipes comme ça, ça coûte très cher.
Mmh. Ouais, surtout que Villefranche, tu parlais du score, et effectivement, contre Bao, ils ont perdu 68-6. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter, on va dire, sur ces scores-là, parce qu'effectivement, ils peuvent faire l'impasse en se disant, bon, Carpentras est plus accessible, on va tout mettre sur Carpentras, quoi. Donc, mais par contre, ils viennent chez vous.
Voilà, ils viennent chez nous. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit hier soir avec Gaël et avec les dirigeants et Max. On pense, oui, qu'ils ont fait l'impasse, puisque la semaine avant, ils avaient failli battre Ville-Gaillenc. Mmh. Et là, ils prennent 60 points à Bayonne et 50-0 à la mi-temps. Donc, ça pose un peu, ça nous pose un peu des questions. Mais bon, nous, on fera en sorte de préparer le match comme si c'était une équipe qui était largement supérieure à nous. Et on va l'aborder avec confiance, puisqu'on est sur une série quand même de 14 matchs où on n'a perdu qu'une fois sur le terrain. Donc moi, c'est ce que je rappelle aux joueurs, que sur le terrain, on n'en a perdu qu'un.
Tout à fait.
En championnat. Donc, si on n'avait pas eu ces matchs perdus sur tapis vert, on serait à la lutte pour la première place. Donc, pour le moment, il faut se dire qu'on est à notre place et qu'il faut continuer à travailler pour pouvoir y rester.
Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez fait une très très bonne performance. Je rappelle également que la radio, on sera en direct dimanche justement pour commenter ce match. Donc en tout cas, ça sera un très très bon match. Écoute, on te souhaite le meilleur, on souhaite le meilleur bien sûr à toute ton équipe et on vous verra sur le terrain dimanche.
Eh bien, c'est très bien, super.
Merci beaucoup Jérôme.
Merci beaucoup, au revoir.
Allez, bonne soirée, au revoir.
Au revoir, merci, au revoir.
Voilà, donc un bon bilan justement du RCC 13. Donc franchement, très très beau score. On espère le meilleur effectivement pour dimanche prochain. Et bien sûr, sur le match du retard, comme ça, ça va permettre justement à Carpentras peut-être de remonter dans le classement. Nous, on fait une petite pause et après, comme je le disais, on va faire de la randonnée pédestre.
Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prend la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. Dans cette ma terre où je m'assois. Je vois mon c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix. On n'y touche pas. On alimente nos peurs qu'en détournant nos regards. De nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir. Autrement que des inconnus qui ne font rien que des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je vois. On n'y touche pas, mon c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix. On n'y touche pas, mon c'est ma terre où je m'assois. Je bois, c'est mes frères, mes sisters autour de moi. Alors que l'on n'y touche pas, que l'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vient d'en avant. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, mais écoutez, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur le 102.2. On parle de sport pendant 1h30. Déjà 30 minutes se sont écoulées Il reste encore une heure de sport. Alors, si vous souhaitez nous réécouter, habituellement, je pose la question à mes amis, mais ils ne sont pas là. Donc, c'est le mercredi matin à partir de 6h30 jusqu'à 8h. Et bien sûr, le podcast que je publierai dans la journée du mercredi qui est téléchargeable. Donc, vous pourrez le récupérer soit sur le site www.rtvfm.net ou bien directement sur la page Facebook de l'émission. Et vous aurez bien sûr tous les renseignements concernant nos invités, hein, que je me fais un plaisir de vous représenter. Bernard Fatato, président de la Fédération de randonnée pédestre de Vaucluse. Rebonsoir Bernard.
Bonsoir Lionel.
Et Jean-Pierre Tailleux, un habitué de l'émission, qui est donc tu es chargé de communication auprès de la Fédération. Rebonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir à tous.
Voilà, donc la randonnée pédestre est un large débat, une activité, je pense que c'est l'activité la plus connue de tous et certainement la plus pratiquée. Alors, je ne parle pas en termes de club, mais la plus pratiquée d'une manière générale. Tu en penses quoi, toi, Bernard ?
C'est très compliqué de savoir qui pratique, parce que le ministère du Sport s'est gratté la tête. Ils sortent des statistiques. On peut dire sans aucun problème qu'il y a plus de 5 millions de Français qui pratiquent habituellement la randonnée.
Mais tu parles. Alors, moi, c'est vrai que là-dessus, il faut aussi y mettre les mots derrière. La randonnée, c'est quoi ? C'est-à-dire, je vais partir d'un point A à un point B, par exemple. C'est bête, hein, mais je vais visiter une ville. Est-ce qu'on peut considérer ça comme la randonnée ? Ou est-ce que la randonnée, c'est stéréotypé, c'est forcément en pleine nature, avec un équipement spécifique, avec une durée particulière, ou non ? Tout peut être de la randonnée.
Non, la randonnée, je pense que c'est lorsqu'on sort de l'activité de marche, il y a les activités de marche qui sont une obligation. Aller travailler à pied, c'est une obligation.
Oui.
15 millions de Français marche par obligation. Mais 5 millions, pour leur plaisir, pratiquent la randonnée. Alors, sur tout un tas de formes. La randonnée, bah, c'est des visites. La randonnée, c'est plusieurs journées. La randonnée, c'est partir en montagne. C'est se balader le long de la mer. C'est marcher 2 heures. C'est vraiment très, très variable. Mais la randonnée, c'est une activité ludique. Où les personnes, bah, quand ils la pratiquent, la font pour faire une activité physique, pour se faire plaisir. Il y a bien longtemps, on marchait en regardant ses chaussures. Aujourd'hui, on regarde tout ce qu'il y a autour. La randonnée, c'est un prétexte. Donc, quand on va visiter des villes, de ville en ville à pied, c'est la randonnée.
Ah oui, donc en fait, c'est vraiment...
C'est un prétexte.
C'est de la marche au sens large.
Absolument. La randonnée, c'est un prétexte aujourd'hui. On se sert de la randonnée dans les écoles. On a des projets qui s'appellent Un chemin, une école. On se sert de la randonnée comme outil pédagogique pour découvrir des parcours sensoriels, pour apprendre à compter, pour découvrir son paysage. C'est un outil.
Et on dit que la randonnée, c'est bon pour la santé et la randonnée, c'est un sport. À quel niveau ça devient un sport ? Parce que c'est vrai qu'il y a des disciplines de marche à pied, surtout la course à pied. Hein, donc on a la course à pied sur route, avec les marathons, les semi-marathons, bon, les trails, donc ça c'est en pleine nature. Donc ça effectivement, alors je vais faire un peu l'avocat du diable, ça c'est vraiment du sport parce que c'est le palpitant monte très haut et ça peut être sur de longues distances. La randonnée, c'est de la promenade, c'est du loisir.
Au-delà d'une heure de marche, c'est un effort physique. Donc nous sommes dans une activité physique qui fait du bien à l'individu.
Donc c'est-à-dire qu'en dessous d'une heure,
En dessous d'une heure, c'est de la balade. Si, c'est très bon. Mais au-delà d'une heure, il y a un véritable profit qu'on peut en tirer. On avait un vieux slogan dans notre fédération qui disait « Un jour de sentier, 8 jours de santé ».
Ah oui, effectivement.
Aujourd'hui,
donc si on veut 365 jours de santé, il va falloir marcher un petit peu quand même.
Bah, on divise par 8 et puis voilà.
Théo, il est en train de changer de couleur. Il dit, oh là là, moi qui veux la santé. C'est pour ça que ce soir, je suis censé le ramener. Bah, finalement, il va faire de la randonnée.
Oui, une heure à pied, c'est bon.
Bah, voilà. Donc Théo, tu sais, ce soir, hein, t'es fixé.
Alors après, sport. Notre fédération est délégataire du ministère des Sports. Tous les 4 ans, il reçoit la délégation en randonnée. La randonnée est un sport qui fait partie du comité olympique français. Ce n'est pas un sport olympique, mais c'est des sports qui sont autour de la table du comité.
C'est dommage parce qu'il y a de nouvelles disciplines qui sont rentrées justement comme sport olympique il n'y a pas longtemps. On en parlera la prochaine fois.
Et pas les boules.
Et non. Mais le breakdance, par exemple, l'escalade, voilà, ce sont des sports qui sont rentrés. Bon, pas la randonnée. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut considérer comme activité tu parles de durée, mais on ne fait pas de course en randonnée. C'est du plaisir.
Pendant longtemps, on n'a pas eu de compétition. On s'est gratté la tête pour essayer de faire un peu des compétitions. On a ce qu'on appelle le rando challenge. Si on a le temps tout à l'heure, on en parlera un petit peu.
Bah bien sûr, on en parlera.
C'est une forme de compétition. Les Audax, c'est une forme de compétition. C'est-à-dire que c'est une marche de régularité sur des grandes distances. Donc là, on est véritablement dans le sport. Il est certain, par contre, que l'ensemble des médias ont beaucoup de mal à nous classer, la randonnée. Un coup, on se trouve dans le sport. Un coup, on se retrouve dans l'environnement. Un coup, on se retrouve dans le tourisme. Mais on fait les trois en même temps.
Non, mais au moins, c'est bien parce que vous avez trois. Parce que c'est vrai qu'on peut poser la même chose pour les échecs qui sont considérés comme un sport. Et on ne sait pas forcément si c'est une activité cérébrale, une activité de loisir ou effectivement un sport. Mmh. Donc, c'est vrai que là-dessus, on peut vous cataloguer. Mais quand on parle de sport, tu parles de durée. Mais est-ce qu'il y a également une histoire de vitesse?
Non, pas du tout.
C'est-à-dire qu'on peut marcher à 2 km/h pendant une heure, ça sera aussi bénéfique que si on marche à...
Non, pas du tout. Non. Pour qu'il y ait un bénéfice, il faut qu'il y ait un minimum d'activité pour brûler un certain nombre de calories. Et donc, je ne suis pas mathématicien, mais il y a une formule qui permet de calculer la consommation de calories par rapport au temps passé et à l'effort produit.
D'accord. Voilà. Donc, la randonnée, on sait que c'est bon pour la santé.
Mais, mais ce matin, tout à l'heure, je faisais la marche nordique avec un groupe. On a des applications d'une grande société qui vend des articles de sport, je dirais son nom. On a fait 9 km et on a consommé 700 calories. Donc, on a tout un tas d'applications qui nous disent aujourd'hui, pour un effort, ramener à une personne moyenne, voilà le nombre de calories que l'on dépense.
Oui, avec maintenant tout ce qui est montre connectée.
Exactement.
On a vraiment toutes les informations.
Ce que je voulais ajouter, moi, c'est qu'en randonnée pédestre, c'est mon ressenti, mais je crois que c'est le ressenti de beaucoup de personnes, c'est qu'on a la possibilité de moduler. C'est-à-dire, ça s'appellera toujours de la randonnée pédestre, mais on peut faire de la randonnée pédestre facile pour celui qui ne peut pas aller plus loin, plus haut, plus vite. Par contre, rien n'empêche de faire vraiment de la marche, de la randonnée pédestre, même très, très, très pénible. Certaines personnes demandent ce genre d'effort. Donc, avec la randonnée pédestre, on n'est pas limité. Hein. Ça peut devenir quelque chose de très, très intense.
Yes. Et est-ce que c'est pour, je vais être vulgaire, est-ce que c'est pour une activité de vieux?
Alors, si on prend les fédérations, notre fédération de randonnée, l'âge moyen, c'est 62 ans.
Parce que souvent, on considère que la randonnée, c'est pour les vieux. Quoi. Je suis désolé. Hein. Les seniors, hein, on va rester plus poli, mais c'est...
On voit les seniors parce qu'ils sont dans des associations.
Ouais.
Les jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne sont pas dans des associations. Aujourd'hui, pour randonner, il suffit de prendre une carte IGN, d'avoir un smartphone, on télécharge une trace, on achète un topo guide, on va voir un office de tourisme. On a tout un bon, tout plein d'éléments, plein d'outils pour pouvoir pratiquer par soi-même la randonnée. Les magasins de sport vendent tous les articles nécessaires, performants ou moins performants. Après, on choisit. Il y a un problème budgétaire, mais on peut pratiquer par soi-même. Donc la randonnée, non, ce n'est pas un sport de vieux. Ce que l'on voit, c'est que dans les associations, l'âge, c'est un âge avancé, parce que ce sont les personnes d'un certain âge qui sont dans le milieu associatif.
C'est tout. Mais c'est tout. Ça concerne tout le monde.
C'est tout.
Ce qu'on rencontre aussi, dans cette population ancienne, vieille, c'est qu'il y a des gens qui donnent des leçons, parfois, à des jeunes. Hein. Parce qu'on peut être senior et avoir un potentiel physique et respiratoire énorme et qui fait souvent, entre parenthèses, la pige à des jeunes qui peuvent nous accompagner.
Enfin, faut rester
ça,
humble.
On le voit.
Il faut rester humble.
Mais je te rejoins totalement. Hein. Il y a M. Marchand qui est un cycliste qui a passé les 100 ans. Donc là, il a raccroché un peu le vélo. Mais c'est vraiment un très, très bel exemple. Et effectivement, il y a des personnes d'un certain âge que je connais dans d'autres disciplines sportives, elles apprendraient pas mal de choses aux jeunes. Allez, on fait une petite pause et on continue justement à parler de ça parce qu'il y a également une activité qui fait un peu concurrence, c'est la marche nordique. On en parle juste après.
You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, après cette petite intermède. Donc Théo, si tu peux mettre un peu une musique un peu plus dynamique la prochaine fois. Hein, parce que comme j'en arrivais pas là, on peut mettre des trucs de jeunes maintenant.
Ah, d'accord.
Profites-en, hein, d'accord ?
D'accord.
Voilà. Jean-Yves, si tu nous écoutes, je dis ça parce qu'il n'est pas là. Non, c'est un rugbyman. C'est... Ah. Ah ouais, c'est un dur dur. Donc oui, je disais juste avant la pause, bah parce que en fait, oui, il y a une activité qui est un petit peu concurrente. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça concurrente, c'est la marche nordique. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de marche nordique. Alors moi, ma question, c'est que la marche nordique, est-ce qu'elle fait partie de votre fédération ou non ?
Alors, la marche nordique, si on prend le ministère des Sports a donné à la délégation de la marche nordique à l'athlétisme.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est l'athlétisme qui s'est plus battu pour l'avoir.
Ah, bon.
Voilà, c'est une compétition.
C'est une compétition. Donc la randonnée a perdu.
Maintenant, la marche nordique, il y en a pour tout le monde. Hum. L'athlétisme fait des compétitions de marche nordique, c'est son job. Nous, la randonnée, on est plus sur du loisir, la marche nordique. Et les populations qu'on retrouve aujourd'hui qui viennent à la marche nordique, ce sont des anciens athlètes. Des gens, des personnes qui ont mal aux genoux, aux articulations, et qui retrouvent dans la marche nordique quelque chose qui va plus vite qu'à la randonnée, où on peut produire un effort assez conséquent dans un laps de temps relativement réduit. Et ils y retrouvent une sensation un peu de... Ah, de compétition, de voilà, ils vont un peu leurs limites, ils vont un peu et ça plaît.
Alors pour les novices qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la marche nordique forcément, déjà quelle différence y a-t-il entre la marche nordique et la randonnée et pourquoi la marche nordique, on va dire permet de faire autant d'efforts que la randonnée mais en moins de temps.
Alors la marche nordique, on se sert de bâtons qui sont des bâtons
de ski.
Non, c'est des bâtons de randonnée d'un seul tenant, qui ont une certaine longueur par rapport à la taille de l'individu. Et ça permet d'allonger le pas et ça permet de soulager le pas et de donner un dynamisme. C'est-à-dire qu'en marchant, on ne marche plus avec les deux membres inférieurs, mais on utilise également les deux membres supérieurs pour se propulser.
Ah oui, donc il y a quand même une certaine technique.
Tout à fait, il y a un geste à apprendre. On leur assimile un peu ça au ski de fond. L'alternatif, le pas alternatif, on est dans le même style de geste.
Et donc, par rapport à, on va dire, à la randonnée, est-ce que c'est complémentaire ? Est-ce que c'est concurrentiel ?
Il n'y a pas de concurrence.
Non.
Il n'y a pas de concurrence. La marche nordique, alors ceux qui pratiquent la marche nordique peuvent être des randonneurs d'une part, ou également des gens qui pratiquent des activités physiques comme la gymnastique, parce que c'est dans un créneau relativement court en termes de temps. La randonnée, si on veut randonner correctement, il faut au minimum une demi-journée. Dans les clas, en 2h30, on peut aller sur place, on s'échauffe, on fait 9-10 km en marche nordique, on s'étire et on rentre. Donc on est dans un laps de temps vraiment beaucoup plus court, très, très condensé.
Mais est-ce que l'objectif est le même ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la randonnée. La randonnée, c'est une excuse, comme tu disais, justement, à la possibilité d'aller voir le paysage, d'apprécier, on va dire, oui, les sentiers dans lesquels on est. Est-ce que tu penses qu'en marche nordique, on apprécie de la même manière ? Il y a plutôt un objectif, on va dire, d'exercice physique où là, on va plus regarder, on va dire, sa technique, entre guillemets, le chronomètre, plutôt que le paysage.
Le prétexte, c'est l'effort, là, quand même.
Oui, c'est l'effort.
On fait l'effort, mais un paysage, on va le regarder, c'est quand même sympathique. On a emmené quelques temps aux alentours de Châteauneuf, où on voyait, sur un plateau, on voyait aussi bien le Ventoux que le Gard. Les personnes ont fortement apprécié. Donc, c'est complémentaire. Dans Vaucluse, dans notre fédération, nous, on a 550 personnes qui la pratiquent dans 12 clubs. En athlétisme, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est quelque chose qui se développe. Alors, ça s'est développé très rapidement. Maintenant, c'est plutôt dans une phase de croissance normale. Aujourd'hui, ce qui manque sur le territoire, c'est des vrais parcours fléchés pour les marchands nordiques.
Parce que les circuits qu'on appelle les JR, hein, pour les randonneurs, ça ne convient pas ?
Non, pas toujours. Pas toujours. Des fois, il y a trop de pierres. Des fois, ça monte de trop. Des fois,
Oh, mais c'est exigeant en plus.
Oui, mais ce n'est pas les mêmes compétiteurs.
Ah.
Voilà.
Bah, ils ont qu'à marcher sur la route.
Et puis quand on prend Vaucluse, bon, mis à part Carpentras, où on est bien situé, et quand on est sur Avignon, pour marcher, il faut au minimum, en général, faire une heure de voiture pour avoir des parcours intéressants. La marche nordique, on n'a pas le temps de faire une heure de voiture. On fait 10 minutes, un quart d'heure pour être sur le lieu de pratique et on repart.
Ah oui, donc l'objectif est totalement différent.
Et oui, donc on est sur une activité physique à proximité des zones urbanisées.
Et est-ce que tu as des pratiquants justement qui pratiquent les deux, c'est-à-dire la marche nordique comme activité physique et peut-être comme, on va dire, préparatoire à la randonnée et après de la randonnée pour profiter effectivement de...
Absolument, dans les clubs, on a au moins la moitié des personnes, lorsque la marche nordique est développée, qui font les deux activités.
Et justement, faire l'activité, c'est une bonne chose. On parlait que c'est ouvert vraiment à tout public. La marche nordique concerne les mêmes catégories d'âge ou pas forcément ?
Alors, la marche nordique, normalement, c'est fait pour rajeunir nos effectifs. Ça apporte un peu ses fruits. Mmh. C'est pas très évident. Parce qu'après, lorsqu'on va s'attaquer aux populations d'actifs, ce sont des bénévoles qui guident, qui emmènent. Donc, il faut trouver les créneaux horaires qui sont judicieux. Et ça, c'est des fois compliqué.
Parce qu'au niveau, justement, on en parlait tout à l'heure, la fédération, donc les clubs qui sont affiliés à la fédération. Mais est-ce que, comme dans n'importe quel club, il y a des heures d'entraînement, des jours d'entraînement, ou c'est plutôt, on est un groupe dans un club, on se donne rendez-vous un jour bien précis et on part ensemble ?
Non, les clubs ont des programmes d'activité mensuels, trimestriels, voire annuels.
Mais ce n'est pas forcément des entraînements, quoi. C'est des sorties
collectives.
C'est
des sorties programmées. Là, le club où je suis, tous les lundis, après-midi, nous avons marche nordique. Tous les samedis, nous avons marche nordique. Et les clubs, on prend le club de l'Issoire-Sorg à Carpentras, on a les sentiers courtanins qui font la marche nordique. Je vais saluer mon ami Serge. Mmh. Je ne connais pas son jour, mais il a une journée ou deux journées qui sont toujours les mêmes. Et donc, ces jours de randonnée, ce sont d'autres jours de randonnée qui sont aussi toujours les mêmes.
Donc voilà, c'est vrai que c'est complémentaire et ça permet comme ça, voilà, à chaque adhérent de trouver son bonheur et justement de fidéliser justement ces populations. Je voudrais aussi qu'on parle d'un sujet, on n'avait pas parlé de ça avec, avec Jean-Pierre, excuse-moi Jean-Pierre, j'étais sûr Jean-Marc, je ne sais pas pourquoi, Jean-Pierre. C'est justement la cohabitation, parce que depuis quelque temps, on parle des chasseurs, et c'est vrai qu'avec tous les faits divers, tous les faits divers, c'est un grand mot, hein, certains faits divers, un vététiste qui a eu un problème avec un chasseur, etc. Donc moi, je voudrais savoir quelles sont les relations que vous entretenez justement avec les autres personnes, les autres disciplines qui occupent ce territoire. Je pensais donc aux chasseurs, à ceux qui font du VTT, donc vététistes, toutes ces populations, aux coureurs à pied. Quand vous les rencontrez, comment ça se passe ?
Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on aime notre territoire et on veut le partager. Donc nous, Fédération de Randonnée, on a rencontré la Fédération des Chasseurs. On les a reçus à une réunion des responsables associatifs. Ils ont exposé la façon dont ils pratiquaient la chasse, les battues, le problème du sanglier en Vaucluse qui est relativement important. Et surtout, on s'est dit, maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour avertir nos populations, pour être visible. Parce que le problème qu'a le chasseur par rapport au randonneur, le randonneur n'est pas visible. Vous voyez, aujourd'hui, là, les auditeurs ne nous voient pas, mais nous ne sommes pas avec des couleurs flunchy. Il faut être visible, il faut avoir du rouge, il faut avoir du jaune, il ne faut pas se confondre dans la nature.
Parce que sinon après on est des cibles. Hein.
Et ben voilà. Donc ça.
Mais est-ce que les chasseurs, tu disais les chasseurs à un moment en aparté, ont besoin de vous, mais comme je te disais avec humour, mais c'est une question qu'on peut... C'est parce que justement ils n'ont plus de gibier, donc ils cherchent un nouveau gibier ou non? Parce que c'est vrai que les gens ont peur de sortir quand il y a les chasseurs.
Non, mais ils ont besoin.
Moi je discute avec plein de gens, avec plein de gens qui font de la randonnée. Ils me disent que la randonnée, ils préfèrent y aller en semaine, hors mercredi, samedi, dimanche, parce qu'ils sont sûrs de rencontrer beaucoup moins de chasseurs, parce qu'il y a une grosse crainte justement de prendre une balle perdue.
Alors, comme on partage le territoire, il faut apprendre à connaître l'autre. Donc la première chose, quand on arrive sur un lieu où on voit une battue, on s'arrête déjà aux chasseurs qui sont en poste pour leur demander si on peut passer et par où on peut passer. On leur dit bonjour déjà, c'est la première chose.
C'est vrai.
C'est hyper important. Après, éventuellement, on peut appeler les sociétés de chasse pour savoir où ils font leur battue. Le problème, c'est qu'elles déterminent leur battue quasiment le jour même. Donc, je veux randonner, du côté de Bédouin, il faut que j'appelle la société de chasse pour savoir quelle battue ils font ce jour-là. C'est faisable. Hein.
On est d'accord. Là, tu parles des battues, donc c'est un rassemblement, disons, oui. De chasseurs. Mais les chasseurs individuels, parce qu'il y en a certains, franchement... ils sont tous effectivement licenciés, mais malheureusement, il y en a certains, c'est compliqué des fois de parler avec eux, c'est compliqué de cohabiter, parce que voilà, c'est vrai qu'ils sont là pour chasser, et quand il y a une personne qui passe, peut-être que le danger est présent.
Comme le randonneur, quelques randonneurs de chez nous seront aussi irascibles, ils sont là pour randonner, ils ne vont pas comprendre pourquoi on chasse.
Oui, aussi.
Voilà, donc il faut absolument qu'on apprenne à vivre ensemble. Alors ça, c'est le côté chasseur. Le côté vététiste. Le côté vététiste, il y a quelque chose de bien qui a été fait au niveau du SMAEF, entre autres par une salariée qui s'appelle Lise. Sur le versant sud, il y a une pratique maintenant de VTT de descente.
Oui,
et là, ça devient dangereux, parce qu'un VTT de descente, quand on l'a dans le dos et quand on est à pied, on ne l'entend pas. Donc là, oui, il y a un projet pour séparer quelques itinéraires. Mais c'est l'exception qui va confirmer la règle.
Parce que ces VTT de descente, ils prennent les GR ou...
Ils prennent tout ce qu'il y a. Tout ce qui existe comme sentier. Aujourd'hui, avec les VTT électriques, ils montent encore plus facilement et redescendent.
Oui. Donc, c'est vrai que là, ça peut être un réel problème à l'heure actuelle.
Là, il y a un projet qui est en cours au niveau du SPF pour séparer un certain nombre de... attribuer quelques pistes de descente aux VTT. Ce qui paraît... Je pense que ce qui est logique, là, par contre.
Oui, pour une raison de sécurité.
Voilà. Après, les autres vététistes, on les croise, on n'a pas de problème, on n'a aucun souci avec les cavaliers. Parfois, on a un peu des soucis avec certains quads ou certains engins à moteur. Voilà. On apprend à vivre. Un exemple, on est au sommet du Ventoux, il y a une piste d'envol pour les parapentistes. On a changé légèrement une arrivée d'un de nos GR, parce que les parapentistes, quand ils s'envolaient, ils frôlaient la tête des randonneurs.
Effectivement, ça serait dommage qu'il y en ait un qui parte avec le parapentiste.
Voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple type du savoir-vivre ensemble.
Oui, après, c'est sûr que quand on voit un parapentiste avec sa grande voile, effectivement, de ce point de vue-là, si on n'est pas trop bête, on passe juste un peu plus loin, on fait un contour, un petit détour. Ouais. Après, c'était surtout, oui, effectivement, par rapport au VTT de descente, parce que comme tu le disais, il suffit que le randonneur descende, que le VTTiste descende,
On n'entend pas. Moi, j'entends un certain nombre de... J'ai entendu des joggeurs, des trailers qui disaient « Oui, mais il faut donner un jour au trail, il faut donner un jour à la chasse, il faut donner un jour au randonneur, il faut donner... » Ben, si on cumule toutes les activités sportives, on a passé une semaine.
Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est compliqué. Entre là, c'est les pratiques encadrées, mais les pratiques libres sont autorisées.
Ouais. Alors, par contre, les pratiques libres, la randonnée, je parlais de 5 millions de Français qui randonnent habituellement. Ça veut dire qu'il y a 18 randonneurs sur 20 qui randonnent tout seuls ou en famille ou en groupe en dehors de structure. Donc, il faut qu'on leur donne un moyen d'information pour les informer. Ça, c'est le rôle de notre fédération, parce qu'on est accrédité pour ça. C'est le rôle aussi du département. Il y a des chemins qui sont balisés. C'est le rôle aussi des collectivités.
Mais justement, c'est la transition. On fait la pause musicale et après, on parle justement de l'intérêt de se licencier à une fédération. Parce que comme tu le disais, une personne sur deux ou trois, à mon avis, hein, c'est ça à peu près la quotité.
C'est 18 sur 20. Qui pratiquent individuellement ou en dehors de toute structure.
Voilà, alors que c'est une erreur, on va le préciser tout à l'heure. À tout de suite.
Des rues de Mexico au carnaval de Rio, on ne peut pas se manquer, partout on entend l'écho. Dans quelques heures on sera dans les airs quelque part, je n'emporte que tes bras et sur mon dos ma guitare. Sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière. Aie confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be sur le palmier de Dubaï. À deux on imaginait un petit monde à notre taille. Allons faire le tour du monde et pas dans quelques secondes. Pas le temps d'hésiter, de nous faire tourner en rond. On avait ce rêve en tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs, suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be
sport sur RTVFM.
Voilà, de retour. Et un petit merci à Théo, parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai dit ce serait bien la musique dynamique. Et Théo, qui a 23 ans, a fait des choix qui sont très pertinents. Merci Théo. Voilà, je voulais quand même te le dire. Hein. Donc là, plus ça va, plus tu vas faire de la randonnée tout à l'heure. On va avoir ça. Donc, on parlait effectivement de, des pratiques de loisirs, des pratiques hors club, hors fédération. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question. La randonnée, tout le monde peut en faire. Tu parlais effectivement des visites qui sont une sorte de randonnée. C'est quoi l'intérêt de payer une cotisation pour adhérer à un club alors qu'on peut le faire soi-même ?
L'intérêt, c'est l'entretien des chemins.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que...
Ils n'entretiennent pas tout seuls.
Non, ce serait trop beau. Notre fédération, enfin, Premier GR a été créée il y a à peu près 70 ans. Donc maintenant, on a tout un tas de chemins qui ont été créés, qui s'appellent des GR, donc chemins de grande randonnée.
Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu sais quel a été le premier GR créé ?
Oui, c'est sur la Loire.
Le GR ?
1, non, 3.
3, ouais, c'est ça. Ouais. En 47.
Ouais. Et...
Je fais ma séance, je donne ma séance en fait.
Après, on a des chemins de randonnée de pays, ce qu'on appelle des GRP. Mmh. Après, on a des chemins de petites randonnées, des PR. Et ces chemins-là, eh ben, c'est notre fédération qui les a décrits.
C'est vous qui avez créé les GR ?
Absolument, qui les a posés, qui a regardé le côté foncier, parce que quand on marche mètre après mètre sur un sol, le sol appartient forcément à quelqu'un.
Mmh.
Donc aujourd'hui, par exemple en Vaucluse, avec le département, on est à 97 ou 98% de chemins qui sont entre GR, GRP et PR sur du public ou sur du semi-public.
Donc on est sûr de ne pas être rembourré par rapport à un propriétaire qui a pas, qui veut pas qu'on soit sur ses terres.
Aujourd'hui, on prend les trailers, ils déposent, comme des randonneurs, pareil, on trouve d'innombrables traces GPS sur Internet. On prend, la randonnée a été décrite, elle est magnifique, on ne sait pas où elle passe.
Mmh.
Aujourd'hui, on est passé, celui qui a déposé la trace, ça s'est très bien passé. Demain, je repasse au même endroit. Le fermier, le paysan est là, il sort son fusil, vous passez pas.
Donc, grâce justement au fait de s'affilier à la fédération, ça permet donc d'entretenir ces chemins.
Un, de les pérenniser, et deux, les entretenir.
De quelle manière vous les entretenez ?
Alors, nous, on les entretient au niveau Vaucluse. On a 70 baliseurs qui vont peindre les marques jaune et rouge, blanche et rouge, sur tout le département. Donc on a 1000 km de sentiers qu'on entretient de ce côté-là. Et à côté de ça, on fait aussi, on conçoit les éditions. Tous les topo-guides que vous pouvez trouver de la fédération, ce sont nos bénévoles qui l'ont fait.
Et j'ai eu la chance d'en avoir deux, d'en acheter deux, et c'est vraiment très très bien fait, parce que c'est une carte routière, mais c'est également une explication sur le parcours. C'est-à-dire qu'on nous dit pas tu vas d'un point A à un point B en prenant à la première à gauche, tout droit. On nous explique aussi ce qu'on peut trouver dans cet environnement-là, ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ça, c'est grâce à vos bénévoles.
Ça, c'est le travail de tous les bénévoles. Et ça, il faut les remercier, hein, parce que c'est un travail énorme qui est fait.
Ah ben oui, je te le confirme. J'ai deux topo-grids, c'est un travail énorme. Et tout ça, justement, c'est ce qu'on... Parce que même pareil, tu parlais des peintures sur, donc, de marquage sur les GR. Ben, tout le monde ne sait pas à quoi correspond un tel ou tel marquage. Donc, par exemple, un GR, pour savoir qu'on est sur un GR, c'est quelle couleur, c'est quel marquage,
c'est
une flèche.
C'est rouge et blanc.
C'est des traits.
Rouge et blans.
Très horizontaux.
Très horizontaux.
Mmh. Voilà,
d'accord.
Le blanc et le rouge. On est sur un GR de pays, le jaune, le rouge.
Moi, ce que je voulais ajouter quelque chose, parce que pour aller dans ce sens, parce que pour moi, c'est très, très, très important, c'est ce travail sur les sentiers. Je trouve que c'est une des missions principales de la fédération. Et malheureusement, ce n'est pas très connu. Les gens ne savent pas vraiment.
Mais non, on ne sait pas.
Voilà. Et c'est un peu dommage parce que c'est un travail énorme effectué par des bénévoles. Et je me pose la question, s'il n'y avait pas tout ce travail, comment serait parcourue notre nature ? Je me le pose. Je me pose souvent la question.
Parce qu'en Vaucluse, il y a combien de kilomètres ?
Alors en Vaucluse, il y a 1000 km de GR, il y a 1700 km de PR.
Donc ça veut dire que toutes ces distances-là sont réparties, sont entretenues par 70 baliseurs.
Alors, les 1000 km sont entretenus par 70 baliseurs. Et par contre, les PR qui sont, eux, balisés en jaune, sont entretenus par le conseil départemental.
Oui, parce qu'il y a 1000 km quand même.
Parce qu'on travaille de concert avec le conseil départemental. Il y a un réseau touristique. Alors pour faire simple, on a le terrain. du terrain ont été extraits, ce qu'on appelle un PDPR, donc un plan départemental des itinéraires de petites randonnées, où chaque commune a donné son accord à l'inscription d'un certain nombre de chemins sur ce PDPR. Lorsqu'un chemin est inscrit sur le PDPR, il ne peut pas être aliéné. S'il est aliéné, la commune doit en demander l'autorisation au conseil départemental. La commune doit proposer une alternative qui doit être acceptée par le conseil départemental. Donc vous voyez, donc, déjà l'intérêt, c'est une protection des chemins.
Oui,
et, c'est une loi de 1995.
Ah, c'est relativement récent.
Oui, c'est récent. Et après, à partir du PDPR, le département a adressé un réseau touristique qui fait 2791 km à aujourd'hui. Et ce réseau touristique, quand on se promène dans le Vaucluse, bah c'est les poteaux et les flèches jaunes qui vont regrouper des PR, des GR, et tous nos sentiers passent par là. L'assise foncière de chaque kilomètre du réseau touristique est entretenue par le conseil départemental. Ce n'est pas les communes qui l'entretiennent, l'assise foncière, c'est le département. Et après, le balisage est fait soit par notre fédération, soit par le conseil départemental. Une autre raison également d'adhérer dans une association. Parce que là, on a parlé d'un pied. Quand on marche sur deux pieds. Donc là, on a parlé du pied, le stade nature. L'autre partie, quand on est dans une association, c'est la convivialité. C'est pouvoir se former. C'est pouvoir échanger. Et la fédération, bah, tout un système de formation, comme toutes les fédérations sportives, où nous avons des animateurs qui sont brevetés, premier niveau, deuxième niveau, en randonnée, en marche nordique, en longe côte, nous on n'est pas concernés pour le présent, en raquette par exemple. Donc la formation est quelque chose de très important, parce qu'un animateur formé qui va être dans une association, il va emmener son groupe. Il a déjà certainement la connaissance, mais on va lui donner des connaissances supplémentaires de sécurité, de psychologie de groupe, d'environnement, de météo. Pour emmener un groupe, il ne suffit pas de connaître l'itinéraire. Il faut gérer son groupe après. Ce sont les hommes et les femmes qu'il faut gérer.
Et oui, parce qu'on parle souvent de la haute montagne avec les risques et tout ça, mais il n'y a pas que. Il y a également justement la connaissance du territoire, on peut vite se blesser. Et tu parlais effectivement des formations pour les animateurs, mais le fait d'adhérer aussi, je suppose que tu as, comme dans n'importe quelle association sportive, tu as une couverture, une assurance qui te protège.
Voilà, on a une très bonne assurance avec notre fédération, qui est adaptée au monde de la randonnée et des pratiques d'activité physique de plein air. On peut faire d'escalade, on peut faire... de la Via Ferrata par exemple, on peut faire des raquettes, ça, là on est couvert.
Et il y a aussi l'assistance, parce que c'est vrai que il y a quelques temps par rapport au, en ce moment on parle de ski et le sauvetage en montagne coûte excessivement cher, diligenter un hélicoptère pour aller faire un sauvetage d'une personne, c'est des milliers d'euros justement engagés pour un sauvetage nécessaire bien entendu, mais ça coûte de l'argent. Et c'est vrai que le fait justement d'être assuré, ça permet aussi de pouvoir participer, justement contribuer à cette assistance. Ça existe aussi au niveau de la randonnée ?
Absolument. Une heure d'hélicoptère, c'est à peu près 2000 euros.
Mais voilà. Donc,
ce qui est très important, c'est quand on regarde son contrat d'assurance, c'est voir quels sont les risques qui sont assurés. Et l'assurance que l'on a au niveau randonnée, bah, c'est un risque adapté à la randonnée. Donc les secours en montagne sont assurés. Et je rappelle à ce sujet que quand on est sur le sommet du Ventoux, on est dans un monde alpin. On n'est pas dans une montagne à vaches, excusez-moi l'expression, de randonnée. Donc c'est pour ça malheureusement qu'il y a de temps en temps des accidents. Mais on a des précautions totalement différentes à prendre parce que nous sommes dans un monde alpin, de haute montagne.
Donc c'est des risques à prendre en compte.
Absolument.
Et puis il y a également, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des topo-guides, donc la possibilité d'avoir des topo-guides. Et puis également d'avoir des tarifs, parce que je sais que dans d'autres, également je prends la référence d'autres associations, mais des tarifs préférentiels. Pour l'achat de matériel sportif, je pense que même en étant ça, il y a peut-être 10%, 20% chez des fournisseurs.
Ah bah aujourd'hui, en Vaucluse, on a pu négocier pour l'ensemble des associations sur une enseigne, je ne peux pas dire son nom, mais on a 15% sur soit les magasins, soit la totalité du magasin, soit les rayons sport.
Ah oui, donc ce n'est pas négligeable.
Et pour tous les licenciés de Vaucluse, ce qui est quand même important.
Ah bah oui, totalement.
Voilà.
On va faire une petite pause, la dernière pause de la soirée, et puis on va parler de deux points qui sont également importants. les projets en cours, parce qu'il y en a un qui est important, hein, c'est la nouvelle édition de l'itinérance Nord, on va en parler dans quelques secondes, et bien sûr de la randonnée qui aura lieu fin mars.
30 mars.
30
samedi
mars.
30 mars.
Voilà, donc fin mars. Voilà, donc on en parle, on fait la pause.
I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio pour la dernière partie de l'émission. Et justement, avant la pause musicale, avec mes amis Bernard Fatato, qui est le président de la Fédération française de randonnée pédestre de Vaucluse, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et Jean-Pierre Tallieu, chargé de communication auprès de la Fédération. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir passé du temps avec nous pour nous parler de cette randonnée pédestre. Mais bon, l'émission n'est pas terminée. Vous êtes très, très ambitieux. Hein, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent. Et là, il y a un projet en cours. Vous allez m'en dire un petit peu plus, parce qu'en le lisant, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que c'est peut-être parce que je suis un petit peu novice. Hein. C'est la nouvelle édition de l'itinérance Nord, été 2019. Donc, c'est quoi cette itinérance Nord ?
Qu'est-ce que c'est cette bête ?
Bonne question.
On s'aperçoit que notre Vaucluse n'est pas assez parcourue en termes de randonnée. Alors, tout à l'heure, je disais le Ventoux, terre de vélo. Nous, on souhaiterait le Vaucluse, terre de randonnée. également. Aujourd'hui, il y a une demande de randonnée de 2 jours à 5 jours qui se propage dans toutes les tranches d'âge. On est situé sur un territoire qui est magnifique, on est situé sur un territoire de mosaïque, on est situé sur un territoire qui est très bien desservi. Donc on s'est dit, avec les massifs, ben on va inventer des tours. Alors on n'a rien inventé du tout, parce que nos anciens coéquipiers avaient déjà fait les GR ou les chemins de les GRP, mais n'avaient rien édité, n'avaient rien mis en musique. Nous, on met en musique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le but du jeu, c'est faire découvrir le piémont du Ventoux en 7 jours.
Ah, donc l'itinérance nord, par exemple, c'est faire la partie nord du Mont Ventoux ?
Non, c'est faire le piémont du Ventoux, le tour du Ventoux par le piémont en 7 jours.
Ah, donc ça dure, voilà, c'est un certain temps.
C'est vrai. Après, on a une deuxième itinérance, parce qu'on en décrit 5 dans ce topo guide. La deuxième itinérance, c'est de partir de Sceaux, Montbrun, Brantes, monter au sommet du Ventoux et redescendre. Donc voir, ça c'est en 3 jours, et 3 jours ou 4 jours, on fait 3500 mètres de dénivelé.
Donc ça, ce sont des pratiques encadrées.
Non, pas forcément. Totalement libre.
Donc comment ça va se présenter, sous forme d'un topo aussi ?
C'est un topo guide. Alors d'abord, sur le terrain, comment ça se présente ? Alors je termine sur le topo guide. Mmh. On a 3 autres boucles qui sont sur le territoire. On a une boucle qui part de Pernes-les-Fontaines, qui remonte à Nes, qui va redescendre par le mur de la Peste. Mmh. On a une boucle qui tourne autour des dentelles de Montmirail, et qui arrive à l'office de tourisme de Vaison, et une boucle qui tourne autour du massif de Rasteau, et qui arrive aussi à l'office de tourisme de Vaison. Donc, tous ces chemins-là, d'abord sur le terrain, sont balisés, GR ou GRP. Deuxièmement, on veut éditer un topo guide. Donc, on est en train de faire tout le travail de numérisation des itinéraires. Donc, on numérise, c'est quoi ? Une trace GPS pour pouvoir mettre dans un système informatique qui va permettre l'édition et qui va permettre aussi de vendre des traces numériques aux pratiquants.
Et donc ça, l'objectif, c'est été 2019, c'est ça ?
Été 2019, c'est la sortie d'un topo guide. Sur ce topo guide itinérance nord, normalement, les voyants sont ouverts, il ne manque plus que la signature du conseil régional, nous devrions être aidés avec un dossier de subvention européenne. Mais pour 2 choses, d'une part pour l'édition et d'autre part pour la mise en place des compagnons de route. Les compagnons de route, c'est quoi un compagnon de route ? C'est un hébergeur qui est au moins ouvert 9 mois pendant l'année, qui fait des nuitées, qui donne un petit déjeuner de bonne heure et qui est proche de l'itinéraire, s'il est proche de kilomètres. S'il est plus éloigné, qui accepte de prendre les randonneurs en voiture et de les ramener sur l'itinéraire. Donc nous, on veut développer un réseau d'hébergeurs. Parce que pour faire de la randonnée itinérante, il faut des hébergeurs. Pour faire de la randonnée itinérante aujourd'hui, il faut trouver les moyens de transporter les sacs. Et je sais qu'on a des connaissances, des collègues sur Sceaux qui montent en ce moment des systèmes pour transporter les sacs pour les randonneurs, comme ça se fait en vélo. Aujourd'hui, le randonneur qui va venir randonner sur plusieurs jours, il veut le faire léger. On a toujours le randonneur qui va traverser les grands GR et qui est en autonomie complète, mais on a beaucoup de personnes qui viennent faire des morceaux de GR sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, de façon léger. De façon légère et en ayant tout le confort. On ne dort plus dans des refuges, aujourd'hui on dort dans un lit. On ne mange plus un casse-croûte, aujourd'hui on va manger une table.
Mmh. Et oui. C'est vrai que ça va permettre justement de créer vraiment une dynamique et puis aussi peut-être des rencontres, parce que justement à ces moments-là, ça sera l'occasion de rencontrer d'autres, d'autres personnes qui ont la même passion. Quoi.
Nous avons 2 salariés, donc une salariée et une de ses missions, c'est pendant 2 mois de rencontrer tous ces, en 2019 et pareil en 2020, de rencontrer les offices de tourisme, de rencontrer les hébergeurs, de rencontrer les professionnels de la montagne, de rencontrer les gens qui peuvent transporter les sacs, de rencontrer les gens qui peuvent amener les gens, les randonneurs sur site.
C'est un petit peu une copie conforme de Saint-Jacques de Compostelle, un petit peu, mais en version courte.
Oui, mais plus sympa quand même, parce qu'on fait ça sur 3-4 jours.
Non, c'est sûr.
Et puis, on découvre un vrai... Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un retour sur soi-même.
Oui.
Là...
Non, mais je parle sur le concept.
Le concept, on veut faire découvrir le territoire. On a un territoire qui est tellement beau. Mm. Il faut qu'on fasse découvrir le territoire, le patrimoine, l'œnologie, les paysages. Et c'est un moyen de mettre en valeur le territoire.
Donc, il y aura des thématiques aussi ?
Ben, quand on va être autour de Rasto et des dentelles, oui, il y a forcément la thématique de l'œnologie qui est là. Hein.
Ah, c'est intéressant ça.
Et puis quand on est sur le sommet du Ventoux, il y a de la faune, il y a de la flore polaire.
Ah, donc le topo guide. Alors donc, c'était 2019.
Oui.
Et il y a un deuxième objectif, donc été 2020, ben, on a fait le nord, on fait le sud.
Ben, le sud, c'est le petit Luberon, le grand Luberon. Le tour d'Etla Parède, c'est-à-dire c'est un massif, un plateau qui est juste au sud de Apt. Et après, les monts du Vaucluse, partie orientale et partie occidentale.
Donc ça, donc déjà, bon, sorti de ce topo guide donc en 2019, l'autre en 2020. Il y a d'autres projets
Après, on a un autre projet. Quand le parc du Ventoux va sortir, on va avoir son décret. On voudra sortir en même temps un topo guide recentré des PR, des petites randonnées, uniquement sur le territoire du parc.
Ah, c'est sympa ça. Ah ouais, c'est bien ça.
Voilà.
Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'échéance.
Si, c'est fin 2019, début 2020.
Ah.
Comme on est en train de sortir un topo guide qui est recentré sur le territoire du parc du Luberon.
Donc tout ça, on aura bien sûr sur tous les renseignements sur le site, hein, Rando 84.
Absolument. Et puis on va en parler, parce qu'on tient absolument à en parler. Notre premier partenaire, c'est le département, donc il est très vigilant là-dessus et il nous accompagne totalement.
Bah, ça se comprend, parce que voilà, le but du jeu, c'est la promotion justement du parc, de la promotion vraiment du Ventoux et tout ça.
Et puis on a un projet très important, c'est sur la plaine rhodanienne. La plaine rhodanienne va de Avignon, Carpentras, Orange, Cavaillon. Référencer, définir, créer des itinéraires de petites randonnées de 1h à 4h. Les baliser, les rendre pérennes, éditer des topo-guides ou éditer des applications gratuites qu'on peut télécharger, afin de mettre à disposition de l'habitat, enfin des zones fortement urbanisées, des randonnées à proximité.
C'est bien ça. Ça va permettre justement aux personnes qui veulent découvrir. Parce que quand on parle de randonnée, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que des fois on parle la journée complète, mais il y a des gens qui ont peut-être envie de faire une petite randonnée d'une heure.
Bien sûr.
Donc après, ça leur fait peut-être un petit peu peur de dire si je pars sur un PR ou un GR, où est-ce que je vais me retrouver, quoi.
Tout à fait. Et pareil, sur cette zone-là qui est blanche, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Alors, bon, l'émission se termine, mais je ne veux pas la terminer sans parler d'un rendez-vous important. Tu en parlais tout à l'heure, c'est la fête de la randonnée.
Bah oui.
Le 30 mars prochain. Alors, bah, de quoi s'agit-il ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à cette année, 2018 inclus, il y avait une manifestation pour chaque pratique de randonnée. Marche nordique, rando pour tous, rando douce, rando santé. Cette année, on a pensé faire mieux et on s'est dit pourquoi ne pas amplifier notre intention de manifestation pour toucher un plus gros public. Voilà. Et donc, on a décidé de faire une seule journée départementale de la randonnée pédestre et de la marche nordique. Donc c'est une journée qui est ouverte à tout le monde, licencié et non licencié à la fédération. Tout le monde est bienvenu. Il y aura donc, ça se passe à Piolenc, le 30 mars 2019, c'est un samedi, à la salle des fêtes de Piolenc.
Et j'ai vu aussi qu'il y a rando famille, rando patrimoine,
alors,
ce qui n'était pas prévu avant. Si.
Auparavant, il y avait une manifestation pour la randonnée douce, randonnée pour tous, et il y avait aussi une manifestation pour la marche nordique.
Mais là, tu vois, je regarde le programme, rando douce, rando santé, rando famille, rando patrimoine.
Il y a huit itinéraires.
Il
y a huit itinéraires. Hein, il y a des itinéraires de randonnée traditionnelle, 12 à 18 km, même 21 km le plus. Ensuite, il y a trois formes de rando douce. Une rando douce normale, si on peut dire. Une rando douce pour connaître le patrimoine du village de Piolenc et des environs. Hein. Et une randonnée aussi douce pour les familles. Une randonnée qui se veut ludique. C'est-à-dire il y aura des jeux pour les enfants et on va leur inculquer un petit peu comment on se sert, comment on lit déjà une carte. Hein, et donc au 25 millième, et comment on se dirige par exemple avec la boussole. Tout ça avec un but quand même ludique, c'est de trouver un petit trésor, hein, une cache, comme on dit, que l'enfant trouvera par lui-même avec les indications d'orientation qu'on lui aura données.
Donc vraiment très très intéressant. Voilà. Il y a également la...
Et il y a aussi deux trajets de marche nordique. Hein, et il y aura aussi donc une rando santé.
Également la découverte des produits locaux.
Bien sûr, il y aura un stand, il y aura un stand de produits locaux. Il y a donc la réception le matin avec le café, le thé.
D'où la convivialité à 7h30.
Donc il y a aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est que pour cette manifestation, il y a eu des pré-inscriptions du 1er au 26 mars 2019 en ligne.
Donc sur rando84.com.
Voilà, tout à fait.
Bah écoute, on va mettre toutes les informations. Après, ce que je vous propose, sans forcément que vous soyez obligé de venir, mais qu'on puisse faire un petit duplex téléphonique pour présenter l'animation. Bernard, je t'en prie.
Bien sûr.
Mais ceux qui ne s'inscrivent pas en préinscription, oui, ils sont attendus le 30 mars.
Et tout à fait.
On les attend le 30 mars quand même. Hein. Ils s'inscrivent le 30 mars, le dernier jour, c'est pas un problème.
C'est pas un problème. Et puis franchement, 5 euros l'inscription, c'est rien du tout, quoi.
Alors, 5 euros pour... On peut continuer ? Non, on n'a plus le temps.
Bah écoute, t'as 30 secondes.
Voilà, donc c'est 5 euros pour les personnes qui ont déjà fait la préinscription. Et les gens qui vont venir au dernier moment, c'est toujours possible, mais ça sera 7 euros.
Oui, très bien, comme ça, ça encourage déjà à faire la
Voilà, tout à fait.
Bernard, t'as le mot de la fin.
C'était super, merci beaucoup.
Merci en tout cas à tous les deux. C'était vraiment un très très grand plaisir. Il y aurait encore une demi-heure, j'aurais continué. Parce que c'est vrai que la randonnée, c'est quelque chose qui est... on a l'impression de connaître, mais finalement, on ne connaît pas, on apprend toujours des choses. Donc, merci beaucoup Bernard Fatato, président de la Fédération de Vaucluse. Merci Jean-Pierre Tailleux. On serait ravis, bien sûr, de vous retrouver. Un petit duplex téléphonique, justement, pour présenter cet événement du 30 mars. On va caler ça ensemble. Sinon, merci mon petit Théo. La dernière musique était sympa. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Merci Lionel et merci à la radio.
Merci beaucoup.